Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Peter Naon, auteur d'un ouvrage de linguistique sur les parlers français des Israélites du Midi, qui vient de paraître chez Elifi. Bonsoir Peter Naon.
Bonsoir Sandrine.
Alors juste pour vous dire, chaque émission commence par un petit hommage évidemment avec une pensée pour toutes les victimes du terrorisme. Une fois ceci dit, eh bien nous pouvons commencer. Alors quelques mots pour vous présenter, vous m'interrompez hein, s'il y a des choses à ajouter. Vous êtes docteur en linguistique de l'Université Paris-Sorbonne, agrégé de lettres classiques et diplômé de l'École nationale des chartes dans la section archiviste et paléographe. Vous avez reçu plusieurs prix et récompenses pour vos travaux de linguistique. Vous avez enseigné notamment à l'Université de Neuchâtel et vous êtes maintenant chargé de recherche en littérature européenne au CNRS. Vos études portent notamment sur les anciennes communautés juives du sud de la France, leur langue, leurs textes, leur tradition orale et leur liturgie. Et sur le sujet, vous avez d'ailleurs publié plusieurs livres, dont « Gascon et français chez les Israélites d'Aquitaine » aux éditions classiques des Garnier en 2018, « Le rite portugais à Bordeaux » d'après son Seder Hazanout chez Goetner en 2018 et celui dont on va parler plus longuement aujourd'hui, « Les parlers français des Israélites du Midi » chez Elifi en 2023. Bref, une carrière qui s'annonce prometteuse. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'il faut ajouter des points dans votre parcours?
Oh, ben, y a sans doute plein de petits détails qui sont passés à l'as, mais je ne sais pas, il intéressera peut-être de savoir que je m'occupe aussi depuis 2016 de la Revue des études juives, qui est la plus ancienne revue savante en études hébraïques et juives, fondée en 1880, et qui est toujours publiée à raison de 2 fascicules par an, et qui est donc une revue savante. Ce sont des fascicules de 250 pages, on est 4 à faire tourner ça, et c'est un peu la revue qui centralise toutes les publications scientifiques en études juives en France depuis plus de 140 ans maintenant.
Et qui organise régulièrement un congrès, la Société d'études juives.
Le troisième congrès va avoir lieu bientôt d'ailleurs, c'est une chose assez nouvelle en fait dans l'histoire des études juives en France, parce que le premier a eu lieu seulement il y a quelques années, on n'en est qu'au troisième, alors que la Société existe depuis 143 ans, ce qui est quand même tout à fait substantiel.
Alors, votre actualité, c'est donc l'apparition des parlers français des Israélites du Midi aux éditions de linguistique et de philologie. L'ouvrage reprend en fait votre thèse de doctorat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cet intérêt pour ce sujet ?
Bah, tout simplement parce que c'est passionnant et puis il y avait énormément de choses qui devaient être faites, qui n'avaient pas été faites et donc je les ai faites. En somme, c'est très simple, il s'agit d'une description de comment les juifs du sud de la France parlaient les langues locales, puisque les différentes communautés juives qui existaient dans le Midi, donc principalement les juifs dits portugais de Bordeaux, Bayonne et des alentours, et les juifs qu'on appelle les juifs du pape, les juifs de la région de Carpentras, Avignon, etc., le comte avenessin, ce qui est maintenant la Provence, toutes ces communautés-là parlaient en fait la langue du lieu, le patois de type provençal ou gascon selon l'endroit, mais dans des formes légèrement différentes, avec des emprunts à l'hébreu, des mots qui venaient de différentes régions d'où ils étaient originaires, parce qu'il y avait eu différentes migrations, des emprunts, des prononciations particulières, une sorte d'accent qui en fait tenait à des traits de langue spécifiques propres aux juifs. Et tout ça était très mal décrit, très mal connu, parce que les documents, en fait, on a depuis le Moyen-Âge des documents, des manuscrits, des choses qui sont assez fragmentaires, assez difficiles à interpréter, et beaucoup de choses qui étaient inconnues, que j'ai découvertes, qui n'avaient jamais été vraiment étudiées, et puis encore des descendants de ces communautés-là, qui, dans leur français, employaient encore des bribes, des vestiges, des fragments de ces anciennes langues. Et c'est donc de ça que je me suis occupé dans ma thèse et dans ce qui est maintenant ce nouveau livre.
Alors c'est un sujet qui est passionnant, on a envie de vous poser plein de questions, vous en avez répondu à certaines maintenant. Est-ce qu'on peut les comptabiliser, ces parlers français des Juifs, des Israélites du Midi?
Vous voulez dire en termes de locuteurs
Termes de parlers, est-ce qu'il y avait plusieurs
Alors il y avait trois ensembles, oui, en fait, assez distincts. les parler des juifs du sud-ouest, donc des anciens juifs portugais, de ces descendants des fugitifs des inquisitions espagnoles et portugaises qui sont arrivés en France à partir de 1520 à peu près.
Est-ce que vous pouvez en dire un mot ? Il y avait beaucoup de judéo-espagnols dans ces dialectes, dans ces parlers ?
Alors en fait, pas tellement, parce que quand ils sont arrivés, ils parlaient tous différentes langues. Ils parlaient espagnol, portugais, catalan. Ensuite, ils ont été rejoints par des juifs qui n'étaient pas d'origine ibérique, des juifs italiens, même des juifs provençaux. Il se peut qu'il y ait quelques familles en fait, qui étaient déjà là depuis le Moyen-Âge et qui n'avaient jamais vraiment quitté l'Aquitaine. Bon, ça, c'est discutable, mais c'est pas impossible, en fait. Et donc, quand ils sont arrivés, tous ces juifs qui ont formé des petites communautés éparpillées dans le pays gascon, avant d'arriver à Bayonne même et à Bordeaux, ils ont fondé des petites communautés dans la campagne, dans l'arrière-pays de Bayonne, en fait. Et donc, c'était des tout petits groupes vraiment mêlés à la population locale, formés de gens qui parlaient des langues différentes, un espagnol et un portugais qui essayent de parler ensemble leur langue, ils ne se comprennent pas vraiment, en fait. Et donc, la solution la plus simple, c'était tout de suite de passer à la langue locale. Donc, il n'y a pas eu, comme en Orient, à Salonique ou à Constantinople ou même à Tanger ou dans ces endroits où il y a eu un vrai judéo-espagnol qui s'est développé en exil, de tous les juifs exilés d'Espagne, il n'y a pas eu ça, parce que c'était de trop petites communautés, vraiment intégrées dans le paysage linguistique local, des Gascons qui parlaient leur patois. Et comme eux-mêmes, ils parlaient plein de langues différentes, le meilleur moyen pour s'entendre entre eux, c'était de parler la langue locale.
D'accord. Donc ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe ?
Alors, le deuxième groupe, c'est les Juifs du comtat venaissin, donc des États pontificaux de la Provence. Comme on sait, depuis le XIIIe siècle, autour d'Avignon et de Carpentras, il y a eu certains territoires qui ont été offerts par la couronne de France au pape et qui sont passés donc sous domination pontificale jusqu'à la Révolution, jusqu'à 1790. Et alors, quand les Juifs ont été chassés de tout le royaume de France à différentes expulsions, rappels, expulsions, rappels, jusqu'à l'expulsion définitive de 1394, ben pour tous les Juifs qui étaient dans les parties françaises de la Provence, qui étaient donc sous la domination du roi de France et qui devaient partir parce qu'ils étaient expulsés, ils avaient en fait qu'à traverser la frontière entre les États français et les États pontificaux. Ils passaient à Carpentras ou à Avignon. Et tout de suite, en fait, ils étaient sous la protection du pape, qui, lui, n'avait pas décrété d'expulsion des Juifs. Et ça n'appartenait pas à la France. Et donc, ils étaient protégés. Et de même, il y avait des Juifs qui étaient là depuis l'Antiquité, qui ont donc été rejoints par quelques fugitifs de la Provence voisine, qui se sont agglutinés dans ces états pontificaux, d'abord un peu partout dans la zone, et puis à partir du XVIIe siècle, ils ont été confinés dans seulement quatre localités, Avignon, Carpentras, Cavaillon et Lille-sur-Sorgue, tout ça dans le département du Vaucluse. Et on les a contraints d'habiter dans des rues spécifiques, des espèces de ghettos, des rues fermées qu'on a appelées les carrières. En provençal, carrière, c'est la rue, en fait. Ces juifs, donc, en fait, n'ont jamais vraiment bougé jusqu'à la Révolution. Ils étaient là depuis toujours, ils parlaient le patois provençal comme tout le monde, mais avec des mots spécifiques, parce qu'évidemment, ils lisaient des textes en hébreu, la Torah, les prières, et ainsi de suite, du matin au soir. Ils apprenaient à lire et à écrire en hébreu. Ils étaient imprégnés d'hébreu comme n'importe quelle communauté juive traditionnelle qui cultive une éducation hébraïque. Et donc, naturellement, tout ça s'immisçait dans leur langue. Ils étaient cloisonnés un peu dans leur quartier spécifique où ils étaient un peu mis à l'écart. Ils avaient un vêtement spécifique. Ils devaient porter un chapeau jaune qui les différenciait de la population chrétienne. Et naturellement, ils parlaient un peu différemment. Et après la Révolution, la plupart sont allés à Marseille et à Aix-en-Provence. Et se sont aussi disséminés un peu dans le reste de la France, mais certaines familles ont continué d'employer. Alors, comme tous les habitants de la Provence, à un moment ou à un autre, le provençal a cessé d'être la langue majoritaire, a été remplacé par le français. Donc les Juifs aussi se sont mis à parler français plutôt que provençal, mais ils ont gardé dans leur français toutes ces expressions d'hébreu un peu estropié, un peu provençalisé, qu'ils employaient quand ils parlaient provençal déjà, du temps où le provençal était la langue commune dans cette partie du sud de la France.
Alors ça, c'est
le troisième.
Oui.
Voilà,
vous anticipez.
Oui. Le troisième, qui est encore un peu à part, c'est Nice, en fait. À Nice, il y a une communauté juive très ancienne qui s'est formée aussi par vagues d'immigration successives depuis le milieu du Moyen-Âge. De juifs qui sont d'abord venus de la Savoie, parce qu'en fait, Nice, c'était les ducs de Savoie. C'était des possessions... c'était pas français. D'ailleurs, ça n'est français que depuis 1860.
Oui.
C'est très tardif. Voilà.
Oui.
Et c'était les ducs de Savoie, donc la maison qui est devenue la maison royale d'Italie. Et alors, il y a eu des juifs qui ont circulé, en fait, très anciennement déjà de la Savoie, où il y avait beaucoup de communautés juives en Savoie au Moyen-Âge, dans les parties basses de la Savoie, pas dans les montagnes, mais à Annecy, à Montmélian, à Yenne, enfin tous ces bourgs commerçants où il y avait des foires et des marchés aux bestiaux, enfin toute une activité commerciale qui attirait les juifs. Et beaucoup donc sont arrivés à Nice. Ensuite, ils ont été rejoints par des juifs italiens, parce que c'était une ville portuaire, évidemment, qui attirait. Donc, beaucoup de juifs du Piémont sont descendus aussi vers Nice. Il y a eu un apport de juifs d'Oran, qui sont arrivés en 1648, qui ont accru aussi la communauté juive de Nice. Et puis, beaucoup de juifs du comté avenessin, des juifs du pape, donc, qui aussi ont immigré vers Nice dès le XVIIe siècle et jusqu'au XIXe. Et alors, c'était une sorte de creuset où se sont mélangées différentes communautés avec... aussi, à la base, la langue locale, donc le dialecte nissard, qui est une espèce de langue intermédiaire entre les parlés du nord de l'Italie et le provençal. C'est pas vraiment du provençal, mais c'est une langue propre à Nice et au comté de Nice, qui était donc la langue véhiculaire avec la population chrétienne et qu'ont adopté les juifs de toutes ces provenances. Et évidemment, des emprunts, des mots voyageurs, en quelque sorte, de tous ces endroits, toutes ces communautés d'où venaient les juifs de Nice.
Alors c'est impressionnant ce que vous nous racontez, on a envie de vous poser plein de questions. Pour réussir à nous raconter tout cela, vous avez sans doute travaillé sur des archives de ces différents groupes. Où vous les trouvez-vous? Qu'est-ce qu'il reste comme archives qui attestent de ces parlers des Israélites du Midi?
Alors c'est très varié et parfois sont des bribes, des scories de textes extrêmement infimes qu'il faut aller chercher dans des endroits assez improbables. Alors souvent, les textes produits par les Juifs ne reflètent pas vraiment les langues parlées, parce que généralement, les gens qui écrivaient des textes religieux, des textes littéraires, de la correspondance, ils écrivaient en hébreu. Ou dans la langue noble du pays où ils se trouvaient, c'est-à-dire qu'à Nice, par exemple, quand on voulait écrire des documents officiels, on les écrivait en italien, en italien littéraire. À Carpentras ou à Avignon, on les écrivait en français, parce que c'était quand même la langue haute du lieu.
Et d'où donc, la difficulté pour vous.
Alors. Voilà, donc c'est pour ça qu'aussi ces documents sont souvent passés inaperçus. Alors c'est parfois des notes extrêmement fragmentaires écrites à la main dans des reliures ou des pièces de théâtre aussi. Souvent les documents théâtraux sont très intéressants parce qu'on met en scène des juifs. Et évidemment, comme ça a une vocation de réalisme, le personnage juif d'une pièce de théâtre qui le représente a vocation à parler comme parlaient les juifs de son époque et de son lieu. Donc souvent, dans des textes de cette nature, des textes satiriques, des chansons aussi qui mettent en scène des juifs, toutes sortes de textes un peu secondaires, on trouve des indications comme ça sur les parlers des juifs. Et puis, c'est assez varié, hein. Il y a beaucoup de choses. Il y a eu quand même, oui, de la correspondance privée aussi, des lettres échangées entre différents membres de ces communautés. Il y a pas mal de choses. C'est vraiment une sorte de puzzle de reconstitution de documents épars.
C'est une sorte de chasse au trésor que vous avez dû faire.
Tout à fait. Et parfois, quand on trouve un document qui, tout à coup, révèle des pans entiers de phénomènes de langue qu'on n'avait pas, parce que chaque chose, finalement, se complète, c'est vraiment comme une découverte, c'est un plaisir inouï, en fait, de tout à coup retrouver la pièce manquante dans le portrait linguistique qu'on est en train de dessiner.
C'est des plaisirs de la recherche.
Absolument.
Qu'est-ce qu'il reste concrètement aujourd'hui de ces traces, de ces locuteurs, de ces langues? Est-ce que certains les parlent encore? On pense aux chansons parfois des juifs judéo-contadins. Il y a au moins un groupe qui enregistre des musiques. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir?
Alors, ce sont deux choses assez différentes en fait, parce que les groupes, enfin, il y a un groupe folklorique effectivement qui fait de la musique dite judéo-contadine, mais c'est de la reconstitution, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé des partitions et des textes. Parfois, quand les textes n'ont pas de partition, ils leur procurent des airs qui sont pas forcément historiquement informés. Et puis ça n'est pas de la tradition, c'est du néo-folklore reconstitué, si je puis dire. En revanche, il existe, alors pour au moins deux de ces trois ensembles linguistiques, des gens qui sont des descendants de ces communautés, qui parlent encore, qui parlent français, qui sont capables de parler français, évidemment, comme tout le monde, quand ils s'expriment, quand ils s'adressent à des gens qui sont pas de leur groupe, mais dans leur famille, généralement, ça s'est réduit à quelques familles entre membres d'une même parentèle plus ou moins large. Ils emploient encore volontiers, un peu comme une sorte d'argot familial, des mots qui sont directement issus de ces anciennes langues, de ces anciennes communautés juives du Sud. Et ça, c'est quelque chose qui existe aussi bien dans les anciennes familles contadines, des descendants donc des Juifs du Pape, dans la Provence, enfin, essentiellement du côté de Marseille maintenant, que chez les Juifs du Sud-Ouest, des anciennes familles dites portugaises.
Est-ce que vous avez en tête des exemples à nous donner ?
Ah ben, oui, bien sûr. Par exemple, dans les familles des Juifs du Comtat, on dit encore assez volontiers « Daber davar devant le nar, ne dis rien devant le garçon, l'enfant. » Nar en hébreu qui veut dire jeune. Daber, c'est donc un verbe, c'est les daber en hébreu qui veut dire parler, mais fléchi selon la morphologie française. On dit daberer, je daber, tu daber, il daber.
C'est très daberer. Proche de l'hébreu en
voilà.
Fait.
Et davar, c'est rien, ne dit chose en fait, littéralement.
Ouais,
daber davar, devant, c'est du français, devant le nar. Ou alors daber davar devant le holan. Holan, c'est olam en hébreu qui veut dire le monde. Et en fait, daber davar devant le holan, c'est ne dit rien devant les gens.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Peter Nahon, qui nous parle des parlers français des Israélites du Midi, son ouvrage qui vient de paraître aux éditions Elifi. On a vu de vous demander combien de langues vous parlez. En tout cas, vous lisez ou vous connaissez.
Ça dépend des jours.
Oui, à peu près.
Ça dépend de ce qu'on appelle parler une langue, vous savez, c'est pas une question qu'il faut poser à un universitaire, surtout qui fait des langues anciennes, parce que qu'est-ce que c'est qu'une langue ? Est-ce que on considère que le dialecte provençal et le dialecte gascon sont une seule et même chose parce que ça appartient plus ou moins, alors c'est aussi discutable, mais ça appartient à l'ensemble de ce qu'on appelle les parlers occitans, ou est-ce qu'on considère ça comme deux choses différentes ? C'est matière à discussion. Après, est-ce que lire une langue qu'on ne parle pas, ça compte ? Est-ce que faut placer le curseur quelque part, et puis rien que ça, c'est déjà compliqué.
Il faut évidemment des bases d'hébreu, d'hébreu biblique.
Pour comprendre tous ces documents, oui,
le
évidemment.
Latin.
Alors, c'est sûr que pour interpréter les documents légués par les juifs du sud de la France, souvent...
Alors justement, une question. Ils étaient écrits en quelle langue, ces documents ? Est-ce que c'était... en quelle retranscription ? Est-ce que c'était en caractère hébraïque ou en caractère latin ?
Alors ça dépend, les deux en fait.
Oui.
On a beaucoup de documents qui sont écrits en provençal, mais en lettres hébraïques. Et ça, évidemment, c'est terrible à lire, parce que ça suppose évidemment de connaître ou de savoir se repérer dans du provençal du XVIIe ou du XVIIIe siècle, qui n'est évidemment pas le provençal d'aujourd'hui, qui était beaucoup moins francisé, beaucoup plus pur, en fait. De se débrouiller pour arriver à lire les cursives hébraïques, parce que l'hébreu qu'écrivaient les Juifs de Provence à cette époque-là, les lettres n'avaient pas la même forme que l'hébreu des livres imprimés. Comme la cursive aujourd'hui qu'on utilise en Israël, qui n'a rien à voir avec les lettres d'imprimerie, les Juifs de France avaient leur propre cursive, qui avait un aspect extrêmement différent, évidemment, de la cursive israélienne moderne, qui en fait est la cursive polonaise. Les lettres rondes qu'utilisent les Israéliens maintenant, c'est l'écriture manuscrite des Juifs polonais. Les Juifs espagnols, même d'Afrique du Nord, etc., avaient des formes d'écriture cursive de l'hébreu qui étaient tout à fait différentes, et les lettres n'étaient pas dessinées du tout de la même manière. Donc déjà, il faut arriver à passer cette barrière-là. Et ensuite, il y a tout le problème de comment les sons sont représentés, comment les sons provençaux sont représentés par des lettres hébraïques. Parce que, évidemment, les lettres hébraïques, il y a certaines voyelles qu'on peut noter avec des yodes, des vaves, des alephs, mais si on n'utilise pas les points voyelles, c'est assez limité. Après, il y a des consonnes qui, aujourd'hui, ont un son dans la prononciation commune de l'hébreu, qui en fait n'avaient pas la même valeur phonétique chez les Juifs de Provence. Les Juifs de Provence, en fait, ne prononçaient pas du tout l'hébreu de la même manière. Par exemple, ce qu'aujourd'hui, nous, on prononce « Shema Israël », eux, dans leur prononciation liturgique, c'était quelque chose comme « Sema Israël ». Avec le shin se prononçait « se », et il y avait plein d'autres phénomènes de prononciation qu'il faut évidemment reconstruire, retrouver, établir précisément pour pouvoir ensuite déchiffrer ces documents.
Est-ce que vous avez l'impression que vous avez fait le tour du sujet ou il reste des choses à découvrir ?
Alors, sur les langues parlées, sur la manière dont les Juifs parlaient spontanément, s'exprimaient oralement, je pense que j'ai à peu près tout découvert. En tout cas, depuis que j'ai fini, j'ai rien trouvé de nouveau et j'en suis à peu près au même point. Après, j'ai découvert d'autres choses que je ne soupçonnais pas quand j'ai fini ces travaux-là qui viennent de paraître. Parce qu'il y a toujours un décalage, évidemment, entre le moment où on remet le livre à l'éditeur. Ce livre qui est sorti il y a quelques mois, il est chez l'éditeur depuis pratiquement 3 ans. Mais depuis 3 ans, donc j'ai à peu près rien découvert de nouveau sur les langues parlées. Donc je pense avoir fait le tour. En revanche, j'ai découvert toute une série de nouveaux documents produits par les Juifs de Provence à l'époque moderne, donc entre le XVIe et le XVIIIe siècle, qui ne renseignent pas tellement sur leur langue parlée, mais qui sont en fait des notations en lettres hébraïques, comme ce que je vous explique, donc du provençal en lettres hébraïques, de chansons folkloriques, de chansons à la mode, en provençal, parfois en français mêlé de provençal, qui circulaient en fait, qui étaient des chansons que tout le monde connaissait, les juifs et les chrétiens vraisemblablement, et qui pour certaines raisons ont été notées dans certains manuscrits hébreux par des juifs en lettres hébraïques dans la marge, comme s'ils voulaient se rappeler le texte de certaines chansons, probablement en fait pour composer, parce que ça se faisait beaucoup à l'époque, pour composer des cantiques religieux en hébreu, donc des textes de poésie religieuse, sur le même schéma de versification que les chansons populaires, pour pouvoir chanter les nouveaux cantiques en hébreu sur les airs à la mode de chansons provençales à la synagogue. Comme d'ailleurs ça se fait encore maintenant très souvent, que dans les synagogues aujourd'hui, tel ministre officiant décide de chanter le Kaddish ou l'Igdal ou je ne sais quel air pieux sur un air à la mode.
Alors c'est vos travaux actuels de recherche ou est-ce qu'il y en a d'autres ?
Ça fait partie des choses dont je m'occupe, donc d'exhumer depuis des manuscrits hébreux de Provence ces textes anciens de chansons. J'ai publié d'ailleurs quelque chose il n'y a pas très longtemps aussi à ce propos.
Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous intéressent ?
Bien sûr, oui. Tout ce qui concerne en fait actuellement mes recherches, dès qu'on s'intéresse aux langues, ça tire très loin, parce que la langue, c'est un fait social total, c'est lié à tout, à la sociologie, à l'ethnographie, aux habitudes, à l'histoire évidemment des gens qui parlent, des locuteurs, à leur littérature, leur texte, leur musique. Donc tout ce qui concerne finalement tous ces aspects-là de l'histoire, de l'existence ancienne des Juifs dans le Midi de la France m'intéressent. La bibliographie matérielle, les éditions, les manuscrits, comment les textes se sont transmis, toute cette histoire qui est derrière les textes, parce que les textes, ils n'arrivent pas comme ça tout sous une seule forme irrévocable, unique et immuable. Ils sont transmis, réécrits, répétés, traduits, recopiés, on fait des erreurs, on les corrige, enfin, tout ça est au cœur, en fait, de mes recherches, et donc c'est pas seulement la langue elle-même.
Est-ce que c'est parler français des Israélites du Midi ou une particularité qui leur est propre? Est-ce qu'on peut les comparer, par exemple, aux différentes variations du yiddish ou de certains judéo-arabes parlés dans les pays d'Afrique du Nord?
Alors là, vous introduisez deux choses en fait très différentes, parce que le yiddish, la spécificité du yiddish, c'est que justement, en somme, c'est une forme de dialecte allemand, avec beaucoup d'emprunts à l'hébreu et aux langues slaves et à différentes autres choses, mais qui a pour spécificité d'être parlé par une communauté linguistique particulière, donc les juifs, ashkénazes, dans un milieu qui ne parle pas une langue apparentée. En Pologne, où on parle le polonais, en Hongrie, où on parle le hongrois, en Russie, etc., la population non-juive ne parle pas un dialecte allemand de la même famille que le yiddish. Alors que ce qu'on a en Provence ou en Gascogne, ou donc dans les endroits qui m'intéressent, les juifs parlent en fait simplement une variété de la langue locale. Ils parlent une forme de provençal, et les chrétiens parlent une autre forme de provençal, qui est la forme majoritaire, mais ça reste... stricto sensu, ça reste le même système linguistique. Les parler judéo-arabes, c'est la même chose que ce qu'on a en Provence. En Tunisie ou en Algérie ou au Maroc, les musulmans parlent des dialectes arabes assez variables d'un groupe à l'autre et d'un lieu à l'autre. Enfin, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a aussi des musulmans qui parlent différents dialectes berbères, kabyles, etc., chleuh, et d'autres dialectes qui n'ont rien à voir avec l'arabe. Mais dans les villes, la plupart du temps, les musulmans parlent arabe, et les juifs parlaient arabe aussi, mais un dialecte un petit peu spécial, qui différait du dialecte des musulmans, un peu de la même manière que le dialecte de mes juifs provençaux différait du dialecte provençal des chrétiens de Carpentras ou d'Avignon. Des mots hébreux spécifiques, un accent particulier, une manière de prononcer donc dans un cas l'arabe ou dans un autre cas le provençal, qui était un peu différente de la majorité non-juive, et ainsi de suite. Donc c'est un peu la même situation. Alors que le yiddish, c'est tout à fait différent. C'est une autre langue, c'est vraiment une autre langue que les voisins.
Alors justement, dans ces parlers judéo-arabes, il y avait parfois, à l'intérieur même des groupes, des langues secrètes pour les femmes, par profession. Est-ce que c'est le cas aussi dans les parlers français du Midi de la France?
Alors c'est très probable que, oui, il y ait eu un vocabulaire spécifique. Alors aujourd'hui, pour ce qui est des sources dont on dispose, c'est très difficile de savoir si les marchands de draps, il y avait beaucoup de marchands de tissus, marchands de draps en Provence, s'ils parlaient différemment des marchands de chevaux, s'ils avaient un jargon particulier. Mais c'est probable que les marchands de chevaux, qui étaient aussi très nombreux parmi les juifs de Provence, avaient tout un vocabulaire secret pour désigner les différentes subtilités de, je sais pas moi, l'état de la dentition d'un cheval qu'on achetait ou qu'on vendait, je ne sais quoi. Dans le sud-ouest, j'ai encore repéré des subtilités entre différents milieux, différentes familles. Les familles qui étaient généralement commerçants avec pignon sur rue, marchands boutiquiers, en fait, avaient généralement pas tout à fait les mêmes mots que ceux qui étaient marchands forains et qui étaient commerçants itinérants. Et généralement, les familles où on avait tradition d'être marchands itinérants avaient un vocabulaire plus étendu et plus conservateur, plus archaïque, plus intéressant de mon point de vue.
Alors, il y a une question classique, mais néanmoins difficile pour terminer cette émission. Je ne sais pas si elle s'adapte vraiment à votre actualité, cet ouvrage qui vient de paraître, mais on essaye de donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom, eh bien, de lire l'ouvrage en question. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Est-ce que votre intérêt est contagieux pour ces langues?
Alors, certainement, oui. Évidemment, plonger dans un ouvrage scientifique, ça demande toujours de s'accrocher un peu. C'est dense, c'est plein de notes en bas de page, plein de références de livres d'érudition et de manuscrits et de documents d'archives. C'est tout ce que je pourrais dire. C'est un peu entrer dans un monde. Alors, je prépare bientôt une histoire, enfin, ça va paraître bientôt, une histoire linguistique des Juifs en France, comme l'histoire des Juifs de France, en fait, à travers les questions de langue. Alors là, pas seulement dans le Sud, et évidemment, tout ça sera plus accessible que le livre qui vient de sortir, qui est avant tout, finalement, une description linguistique, c'est-à-dire un dictionnaire, une sorte de grammaire historique. Mais évidemment, la passion que j'ai eue pour ça, qui moi m'a permis d'écrire ces centaines de pages sur ce sujet, je pense bien qu'elle est contagieuse et c'est évident que...
En tout cas, on a envie de vous remercier parce que vous nous avez ouvert une fenêtre ou peut-être des fenêtres sur un sujet totalement méconnu et en même temps complètement passionnant. Et ce livre, Les Parlers français des Israélites du Midi, et surtout la manière dont vous en parlez, eh bien, nous donne envie de suivre le parcours de Peter Nahon et de savoir ce qu'il va faire par la suite. Merci infiniment. Et puis, on vous dit à très bientôt. On rappelle d'abord votre actualité. Hein, c'est donc cette parution, Les Parlers français des Israélites du Midi aux éditions Elifi, votre thèse de doctorat. Et on vous remercie. Bonne soirée.
Merci beaucoup, Sandrine.